Historiquement, l'Évangile nous montre la naissance de Jésus à travers, précisément, une généalogie de meurtriers. Nous l'entendrons ce soir. C'est comme ça que commence l'Évangile de saint Matthieu. C'est une généalogie de meurtriers, d'adultères, d'incestueux, de toutes sortes de criminels. Il y a aussi quelques saints. Et c'est comme ça que Jésus naît aussi en moi. Il surmonte l'une après l'autre la longue généalogie de mes opacités. Il vient à travers l'accumulation de mes crimes conscients et inconscients faire resplendir sa lumière dans ma nuit, dans mes ténèbres. Nous sommes tous des assassins en puissance. Chacun. Il y a plus d'une parole qui est sortie de ma bouche qui a tué l'autre. Il n'est donc pas de problème qui ne trouve sa réponse en Jésus le Christ. Aucune obscurité qui ne puisse trouver en lui sa lumière. Il faut être cohérent. C'est pour cela que Jésus naît au cœur de la nuit de Noël, c'est à minuit. C'est pour cela aussi qu'il ressuscite à Pâques à minuit, en pleine nuit, en plein dans la fraction des ténèbres. Il est le soleil naissant, comme nous chantons, afin d'illuminer ceux qui sont dans les ténèbres. Il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Et celui qui le suit ne marche plus à tâtons, dit l'Écriture. Donc, en Jésus, il faudrait que nous prenions la décision de vivre cela. On arrive à la fin de l'année, c'est un peu le moment du regard clair sur ce qui s'est passé. Je ne dis pas de faire des grands bilans, mais de se laisser interroger par ce qui s'est passé. Et puis, comment voulez-vous que l'année qui arrive soit nouvelle si nous ne prenons aucune décision? L'orientation, l'orient d'un avenir dépend de ma décision, c'est-à-dire de l'engagement de ma liberté. Sinon, elle sera aussi vieille que celle qui est passée. Et l'enjeu, c'est de sauter hors de cette vieille vie, évidemment, il n'y en a pas d'autre. Comment sauter hors de cette vieille vie? Donc, en Jésus, tout problème, depuis les interrogations banales et continuelles de ma vie quotidienne, jusqu'aux décisions les plus importantes, a déjà sa solution. En naissant parmi les hommes, Dieu introduit donc aussi dans le monde un style de vie radicalement nouveau. Il y a une manière d'être typiquement évangélique. Vivre, dit saint Paul, désormais, c'est le Christ. C'est pas de bricoler à la surface de l'histoire et de se permettre ici ou là quelques rites en marge de l'existence. Vivre, c'est le Christ. Et il n'y a plus d'autre manière de faire la vérité pour un disciple que de s'unir toujours davantage à lui. Voir Jésus et lui seul, l'étreindre et le laisser vivre en soi, c'est la manière spécifiquement chrétienne de poser tout problème et d'en recevoir la solution comme par transparence à travers lui. Et Jésus le dit en toutes lettres, cherchez d'abord le royaume des cieux, c'est-à-dire lui, qui est au-dedans de vous. Cherchez d'abord. Quelle question? Qu'est-ce que nous cherchons d'abord? Quelle question? Et nous pouvons parcourir l'année en regardant ce que nous cherchons d'abord constamment, du matin au soir. Ça ne peut que aller mal, vous savez. Mais chacun peut faire son constat personnel. Et ceci est aussi manifeste, par exemple, dans l'épisode de la Transfiguration. Vous vous souvenez, quand Jésus emmène les trois grands initiés, Pierre, Jacques et Jean, sur le Tabor, il est transfiguré. Il n'y a plus aucun problème quand on est transfiguré, évidemment. Le tragique cesse d'exister. Et quand l'épisode est terminé, le texte dit admirablement, ils ne virent plus que Jésus, seul. Ils ne virent plus que Jésus seul. C'est ça la focalisation de l'être en Jésus-Christ, qui est la grande réponse à ma nostalgie intérieure. Là est l'unique réponse à toutes mes questions, petites et grandes. Et dans cet épisode du Tabor, il y a à côté de Jésus Élie et Moïse. Cela veut dire que cette attitude de polarisation qui transfigure l'être humain, cette polarisation en Jésus-Christ, c'est le résumé de la loi et des prophètes. Élie résume tous les prophètes, pas seulement les prophètes d'Israël, tous les prophètes du passé et de l'avenir de toutes les traditions. Et Moïse résume la loi, toutes les lois, pas seulement les lois judaïques, toutes les lois de l'histoire profane et sacrée. C'est pas peu dire, hein. Quand on s'interroge devant un texte de ce type, il faut aller jusqu'au bout et ne pas le lire. Il ne s'agit surtout pas de lire l'Évangile, mais de le devenir, parce qu'on est dans l'incarnation. C'est lui qui s'incarne dans ma liberté que je lui offre. Jésus ajoute à cette attitude que tout le reste nous sera donné par surcroît. Celui qui fait cela, qui se focalise en lui, qui cherche à travers tout, à travers le multiple, l'unique. Nous faisons mille choses du matin au soir. Mais si à travers ce multiple, nous ne cherchons que lui, quoi qu'on fasse, comme dira saint Paul, le matin on ouvre les yeux, pourquoi ? On met les pieds par terre, on va se laver, on fait la toilette, on mange. Mais quel est le motif qui m'habite quand je fais tout cela? Est-ce que je me laisse emporter par le multiple, ou est-ce que je manque toujours un peu plus à propos de tout ce que je fais en lui? Est-ce que faire sa toilette, par exemple, c'est le chantier où je m'exerce à être en lui, à le laisser vivre à travers moi? Ou qu'est-ce que je fabrique? Et Jésus dit, quelqu'un qui fait cela, tout le reste qui me préoccupe tellement, pendant que je fais ma toilette, je suis déjà inquiet. J'ai des soucis parce que je leur permets d'être en moi, etc., etc. Et Jésus dit, ne vous préoccupez de plus rien parce que tout le reste dont vous souciez vous sera donné par surcroît. Qui n'a pas mesuré l'extraordinaire fécondité de cette promesse de Jésus dans sa vie, tous les jours, n'a sans doute pas encore fait l'expérience de la lumière venue dans le monde la nuit, dans ma nuit de Noël. Au contact du feu, toutes nos difficultés fondent comme la neige au soleil. C'est d'ailleurs cette image du feu dans le fer qu'utilise le plus la tradition de l'Orient à l'Occident pour exprimer la naissance du divin dans l'humain. On trouve cette image du feu dans le fer déjà chez saint Macaire au IVe siècle, et parcourt l'Orient, on la retrouve en Occident chez saint Bernard au XIIIe siècle. Dieu est en moi comme le feu dans le fer. C'est un état de fusion sans confusion. C'est même le contraire d'une confusion. Plus je suis en lui, plus il est en moi, plus je deviens moi-même, étant donné qu'il est la source de mon être. Et comme le feu se mélange au fer, rougit de part en part par un brasier, c'est ainsi que la vie du Christ peut remplir tout mon être, c'est-à-dire mes pensées, mes sentiments, mes désirs, mon souffle, mon corps même, jusqu'à ce que le Christ ne fasse plus qu'un avec moi et moi avec lui. Les pères appellent ça un co-être. Un co-être avec le Christ, cette espèce de co-corporalité avec lui, comme disent les pères, plus intime qu'on ne peut le concevoir, à tel point que Grégoire de Nyssa, qui est le frère de celui que j'ai cité tout à l'heure, Grégoire de Nazianze, il parle de mélange. Il dit que c'est un mélange qui est au cœur de la foi chrétienne, son fondement, le noyau même du message de Noël, la véritable condition du disciple en chemin, le voilà. C'est la condition, je vous le rappelle, de mon baptême et de l'Eucharistie. Nous sommes en plein dedans. Et tout est lié. Le mot baptême n'est pas un terme français. Il veut dire étymologiquement, littéralement traduit, plonger. Le chrétien, le disciple que je suis, c'est quelqu'un qui est plongé dans le Christ. C'est pas quelqu'un qui a été baptisé il y a 30 ou 50 ans. C'est un état. Je suis actuellement plongé en Christ. Et l'Eucharistie nous assimile à lui toujours davantage. C'est à proprement parler, comme dit Grégoire Palamas, alors je fais un bond à travers les siècles, Grégoire Palamas est un sommet au 14e, 15e siècle, il dit, le Christ est la chair de ma chair, le sang de mon sang, le souffle de mon souffle, les os de mes os. Pour ceux qui viennent méditer dans les sessions, on essaye de prendre conscience un peu de cette réalité folle, complètement folle. Ça, c'est lui, c'est lui. Il n'y a que la conscience qui est absente, qui se promène partout, n'importe où. C'est, dit-il, Saint Grégoire Palamas, une transfusion sanguine. Nous sommes co-corporel et co-sanguin au Christ. Il s'agit d'un enracinement en lui, effectif, ontologique, et pas seulement une union, vous savez, spirituelle ou pieusarde. C'est une identification au sens propre du terme. Le Christ, c'est le moi profond de l'homme, son sujet. Je dis en d'autres mots parce que Jésus nous l'a fait comprendre quand il prend par exemple la fameuse parabole de la vigne, chapitre 15 de Saint Jean. C'est extraordinaire. Ça, encore un texte qu'il faut savoir par cœur parce que ça nous alimente. Quand il dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». Et qu'est-ce que le sarment par rapport à la vigne, hein? Ça veut dire que le jeu du Christ est à l'intérieur de mon jeu. Il n'y a pas de dualité. Sinon, il y aurait une distance. Et l'amour ne supporte pas la distance. Alors, les couples, les vrais couples savent ce que je dis. Mais la distance est abolie parce que l'un devient de plus en plus intérieur à l'autre. Comme dira d'ailleurs Jésus dans un autre texte, ils deviendront une seule chair. C'est une mutuelle cohabitation, mais sans confusion. Le Christ est en moi comme un sujet, à l'intérieur de mon jeu se trouve son jeu comme une source d'où je me reçois à chaque instant.